Au programme dans cette release, des souterrains, de l'obscurité, des rumeurs et de la criminalité. Dascritch avec vous cette semaine, nous recevons Reina Stamboliska, experte en gestion des risques et des crises, et j'espère que tout le monde a mis son dark web en Anonymous. Ok, allez, c'est parti. Bonjour Reina Stamboliska.
Salut.
Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui aimes te faufiler jusque dans les recoins les plus sombres de ta chambre pour vérifier s'il y a vraiment un long monstre sous le lit. Je te dois d'être honnête. Le terme darknet me met mal à l'aise. Non pas sur la réputation sulfureuse, mais plutôt sur un a priori raciste. Ce qui est sombre, ce qui est obscur, ce qui est noir, est forcément sale. À tel point que des pans entiers de notre langage et donc de notre mode de pensée sont bâtis en ce sens. Pense au marché noir, ou encore à travailler au noir, et tu verras immédiatement que darknet, cette obscurité pleine de monstres, est un terme qui veut avant tout noircir le tableau d'Internet. Du coup, oui, à entendre ce terme, eh ben oui, je broie du noir. Car il n'est ni réaliste, ni gentil. Le terme est raciste et pas qu'envers les monstres. Mais faute de meilleure expression, et afin d'attirer un maximum le chaland, eh ben, j'aurais bien du mal à le substituer par un autre terme. En fait, ce terme est assez mal choisi. Le darknet définit des données qui ne sont pas publiques ou qui ne sont pas mainstream. En tout cas, c'est la définition la plus raisonnable que nous avons réussi à cerner. Pour te donner une idée, notre camarade Gaël Cérez, qui est journaliste de profession, avait proposé un sujet darknet pour CPU dans les premiers sujets possibles. Une mouche noire a volé au-dessus de la table. Il était surpris de notre regard à la fois blasé et désolé. Et il nous a fallu quelques minutes d'explication pour qu'il comprenne combien, pour nous, le terme est racoleur et galvaudé. Alors quand on lui a expliqué et démontré qu'il utilisait le darknet sans s'en apercevoir, alors même qu'on préparait notre programme CPU, je te dis pas la sueur froide qui coulait le long de son échine. D'un coup, lui remontaient toutes les fureurs et foudres promises aux utilisateurs du darknet par les puissances politiques tutélaires. Mais en soi, Gaël avait totalement raison de proposer le sujet. Notre problématique était de trouver quelqu'un qui fasse régulièrement des descentes dans ces secteurs interlopes sans être accusé ni de sensationnalisme ni de minimiser. Car si nous parlons du darknet, nous devons y apporter de la lumière. D'abord, trouver une définition exacte et non ambiguë du terme darknet, ce qui nous permettra de définir exactement ce qu'il est et donc où est-il. Ensuite, déterminer qui peut accéder et comment, ce qui implique une responsabilité de notre part. Accéder au darknet est-il en soit illégal? Et si oui, quelles lois l'interdisent et quelles sont les peines encourues? Bah oui, un accident est si vite arrivé, une cagoule et qui remonte et hop, on se retrouve sur le darknet et donc probablement, futur tolard. Car souvent, tu as entendu parler du darknet comme le repère de djihadistes pédonazis vendeurs de muffins à la coke et au whisky de contrebande. Ouais, enfin, il y a une multitude de termes aussi autour du darknet. Il y a le dark web, deep web, boîte noire, web parallèle, underworld, réseau profond, subnetwork, Marianne's web. Sont-ils simplement des synonymes ou expriment-ils des nuances? Et ces nuances sont-elles importantes? Bref, tu l'as compris, le darknet est avant tout flou dans l'idée générale, et donc attire les fantasmes et les délires. En tant que technicien averti, nous sommes au courant que ces racontars sont grandement exagérés. Et tout le travail de ce que nous devons faire dans une telle émission est donc de voir quelle est la proportion réelle de la criminalité supposée. Enfant du futur immédiat, oui, Internet peut être crade, sale, infréquentable, car Internet représente la diversité de notre civilisation. Et en soi, elle en reflète aussi les travers. Dark Star, le thème du film de John Carpenter, composé et interprété par le réalisateur lui-même. Pour parler du Darknet, nous n'allons pas invoquer d'Anonymous ou un gestionnaire d'un service d'e-commerce de produits stupéfiants. On aurait pu aussi avoir un admin 6 qui opère un point Tor, ça c'est prévu. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler technique, on va plutôt parler de l'impact du Darknet sur notre société et d'une personne qui l'a analysé profondément. Nous interviewons donc par satellite Reina Stambolica, auteur du livre « La face cachée d'Internet » disponible chez Larousse, experte en gestion des risques et des crises auprès d'entreprises et d'organisations internationales et pourfendeuse de trolls poilus dans les médias. CPU, carré et petit utile. Alors Reina, désolé, il m'a fallu 4 reprises pour arriver à dire ton nom correctement. Comment as-tu découvert le Darknet et comment tu y es rentré la première fois ?
Alors, le Darknet, c'était il y a... en 2008, je crois. Un de mes ex m'avait montré un truc qui s'appelait Freenet. Dit « Ouais, regarde, j'ai trouvé un logiciel, c'est pas mal, il y a des gens qui discutent tout ça. » Et il m'a montré. Et en fait, mon impression avait été « Ouais, c'est chouette, mais c'est moche et ça va super lentement. » Donc, voilà, ça m'est resté un truc complètement anecdotique pendant quelques temps. Jusqu'à ce que, en fait, je m'intéresse plus... de manière en fait plus politique à la chose, c'est-à-dire en quoi en fait la technologie peut être politique, porteuse d'éléments justement de pertinence politique, économique, sociale, etc. Et là en fait j'ai recommencé à m'intéresser à ces technologies, on va dire ça au sens plus large. J'ai appris après qu'on appelait ça le Darknet, c'était assez drôle parce que la plupart des pages en fait elles sont pas noires quoi.
Comment est venue l'idée du livre et comment as-tu commencé à écrire ce livre ? Est-ce que c'est des idées directrices ou c'est un rassemblement d'éléments qu'ensuite tu as classé par thématique ?
Quand on s'était vu la première fois avec mes gentilles éditrices chez Larousse, on a passé pas mal de temps en fait à cadrer le sujet parce que elles voulaient quelque chose qui, en fait, qui déjà ça partait de leur propre besoin de comprendre quoi on a, enfin. De quoi on se sert tous les jours et quels sont les enjeux dont parlent les médias, sur lesquels s'excitent les politiciens, etc. Et en fait, on a passé vachement de temps à décider c'est quoi ce dark truc sur Internet et en fait, quoi et comment les aborder pour que ça fasse sens. Donc voilà, le truc est parti comme ça. On a vraiment beaucoup discuté. C'est là où je me suis rendu compte que mon public cible en fait pour ce livre serait elle, c'est-à-dire des gens qui sont par ailleurs tout à fait cultivés, qui ont une culture tout à fait excellente et respectable, mais qui juste ne sont pas des spécialistes de la technique comme nous on peut l'être, qui n'ont pas passé 10 ans dans des communautés libristes ou machin, mais c'est juste des gens qui se servent d'un outil parmi d'autres. Et qui ont besoin de comprendre et de faire le tri en fait dans les informations qui sont communiquées autour de cet outil-là, de ses incidences sur nos vies, etc. Et voilà, du coup, si tu veux, ça a commencé comme ça. J'ai écrit les chapitres 2 et 3 d'abord. Et le chapitre 1 en dernier, et c'était le plus dur en fait, en tout cas pour moi, parce que j'ai dû le recommencer je crois 5 fois. Et les cinq versions n'ont rien à voir l'une avec l'autre, parce qu'en fait, il s'agissait que ce soit en fait le truc qui introduise et qui permette de donner du lien aux choses que j'allais raconter après. Donc, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que ça veut dire, que ce soit légalement, que ce soit économiquement, etc. Avant de m'intéresser à qui fait certaines choses et à où, ou en fait pas où, se font certaines choses. Parce que le Darknet, ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est que le Darknet, c'est pas un endroit. Et, mais bon, ça, j'imagine qu'on y viendra plus tard.
On verra. On va avoir
dans
effectivement...
notre discussion.
Dans ce livre, tu reprends des événements que tu remets en perspective. Est-ce que ce sont des événements, tu voulais en parler depuis un bail, ou tu t'es, ou bien à force de chercher ce dont tu pourrais parler comme exemple sur telle thématique, tu t'es rendu compte que tel événement pouvait s'y raccrocher et que son histoire était totalement dans raccord avec la thématique.
Enfin, quand on écrit un truc, que ce soit un bouquin ou un article de blog, on met toujours des événements en correspondance. Hein. Ça, c'est pas, j'ai pas inventé l'eau chaude. Après, enfin, ce qui a été important, si tu veux, ça a été vraiment beaucoup plus comment en fait l'enchaînement de ces choses-là. En quoi cet enchaînement, en quoi cette évolution, elle est pertinente pour en fait pour porter mon propos. Ah, on voit partout des gens. Enfin, Anonymous, c'est très daté. Hein. Si on commence à y réfléchir, ça correspond à un ensemble d'activités, à des enjeux, etc., qui avaient surtout énormément de visibilité il y a quelques années. Aujourd'hui, on est plus préoccupé de savoir ce qui va se passer avec Uber et avec Snapchat que quel site va se faire dédosser. Enfin, je veux dire, c'est fini ça. Mais ça, ce qui a été important en fait dans cette narration, on va dire ça comme ça, a été de choisir et de trier les événements importants qui ont essaimé ailleurs qu'aux États-Unis, qui ont émaillé en fait une évolution de ce qu'on peut appeler une communauté, mais qui reste quand même super diffuse, et ce pendant des années. Donc ça a été surtout ça, et certaines, pourquoi j'ai utilisé le mot narration, quelqu'un m'a fait la remarque il y a un petit moment que même s'il s'agit d'un livre documentaire, hein, c'est pas de la fiction ce que je raconte, il y a un travail d'auteur, mais parce que en fait j'ai distillé des anecdotes personnelles aussi, mais de manière en fait à ce que tu, enfin, on peut pas savoir en fait ce qui est personnel et ce qui l'est pas.
En ouvrant le livre, ce que j'ai vraiment trouvé extrêmement agréable, c'est la fluidité, la facilité de lecture. Elle est vraiment, l'ouvrage est vraiment accessible, effectivement, à des gens qui connaissent un petit peu l'ordinateur, mais qui ne savent pas comment Internet est construit. Et d'un autre côté, même pour quelqu'un qui s'y connaît sur l'informatique et tout ça, c'est vraiment un plaisir à lire parce qu'on se rappelle des événements qu'on a vécu, d'autres fois qu'on ne connaissait pas tous les tenants et aboutissants. Et c'est d'autant plus surprenant parce que quand même une partie des concepts présentés sont plutôt abscons quand même pour le grand public. Ça, je suppose qu'il y a dû avoir des heures et des heures et des heures de travail justement avec tes éditrices.
Il y a deux choses. Il y a, comment dire, il y a une, enfin, si tu veux, moi, mon but, ça a été de faire quelque chose qui se lit facilement. Parce que le parti pris a été de faire de la médiation. D'accord ? Mmh. Et mais quand on fait de la médiation, enfin, en tout cas, moi, quand je fais de la médiation, je fais de mon mieux pour ne pas prendre mes lecteurs pour des cons. Parce qu'il y a énormément de vulgarisation qui est faite où on fait du réductionnisme. On s'imagine que la personne qui nous écoutera ou qui nous lira, de toute façon, elle ne comprendra pas. Et à force de couper et de raboter des concepts et des choses, bah, du coup, en fait, on ne comprend plus rien. Et en fait, les trucs à chaque fois, c'est oui, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, bah d'accord, mais explique-moi alors si c'est plus compliqué que ça. Voilà. Et si tu veux, c'est ça qui a été le parti pris dès le départ. C'est je vais faire un truc pour Madame Michu qui regarde Arte, quoi. Pour moi, toute personne, à partir du moment où on lui donne les éléments et on la met dans un environnement porteur, toute personne est capable de saisir des choses. Il faut arrêter avec l'élitisme qui est très souvent, qui a cours très souvent dans nos communautés, où de toute façon, les gens qui ne savent pas coder un truc ou qui ne savent pas scripter un, je ne sais pas quel script shell exotique ou machin, c'est tous des cons. Non, ils ne sont pas tous des cons. Ça, et je supporte pas ça. Donc, si tu veux, mon but, ça a été de dire, OK, certes, il y a des processus et des mécanismes techniques et autres en jeu qui sont complexes. C'est pas pour autant qu'on va faire genre, ouais, c'est trop compliqué pour toi. Donc, on va pas partir du principe que c'est abscon, on va partir du principe que c'est simple si on l'explique de manière claire. Et après, bah, si tu veux, il y a un autre truc qui est que bah, ce qui se comprend s'explique facilement. Donc, il y a des chances, si tu veux, que je comprenne les trucs que j'ai racontés. Non, bon, je plaisante parce que ça, on m'a déjà fait la remarque de toute façon. Vu que je suis une nana, je peux pas comprendre des trucs techniques parce que j'ai beaucoup goûté.
Y a vraiment qui ont dit
Voilà,
ça?
mais en. Oui, non, non, c'était très mignon, si tu veux, qu'ils m'ont ex aussi expliqué que de toute façon, on ne disait pas ça, on disait si, mais ils n'avaient rien lu de toute manière. Donc, non, c'était très mignon. J'ai trouvé ça adorable qu'en 2017, il y ait des gens qui, comme ça, sous leur vrai nom, se pointent sur les réseaux sociaux ou autres et qui disent à quelqu'un dans ce job depuis des années que de toute façon, puisque bah, tu as des ovaires, tu connais rien.
Bon, j'ai
Bah
déjà
après, si
expliqué ce
tu
que
veux.
c'était que le mansplaining en coupant une femme. Donc je crois que je vais pas le refaire une seconde fois. Ça, déjà,
Voilà,
les
mais
gens n'ont
si
pas
tu veux,
compris ce que c'était
c'est.
l'humour.
Voilà, mais si tu veux, ça a été. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, si tu veux, ça a été assez marrant parce que quelqu'un m'a sorti une fois. Non, mais c'est un. Est-ce que tu l'as écrit avec tes ovaires, ton bouquin? Je dis, bah non, avec les doigts. Il m'a dit, bah voilà. Donc, en quoi le sexe est, ou le genre à avoir là-dedans? C'est un bouquin digital. Donc, si tu veux, si tu veux,
D'accord.
voilà, c'est un bouquin digital. Mais pour revenir sur ta question de départ, sur la complexité des choses à raconter et la facilité et la fluidité de lecture, il y a eu beaucoup de travail, aussi bien de ma part que de la part des éditrices et en relecture, etc. Parce que, si tu veux, moi, j'ai rendu des versions plus ou moins finales. Il y a eu très peu de changements au final par rapport à ce que j'ai rendu. Et en fait, mon reality check, ça a été elle, justement. Est-ce que les trucs que j'ai racontés sont trop compliqués? Est-ce que. Enfin, tu vois, en fait, si elle me disait on ne comprend pas trop là, ou si elle essayait de reformuler un truc et il en sortait des trucs complètement farfelus, c'est que j'avais mal expliqué.
C'est un
Voilà, donc si tu veux, ça a été, voilà, ça a été le reality check. Et puis, j'ai remercié quand même pas mal de gens en fin de livre parce que ils ont relu, tu vois, ils ont fait des retours qui étaient vraiment précieux, etc.
Oui,
Sur,
la
bah,
liste est
justement,
un
sur le
la
niveau de
liste
complexité.
Ouais, la liste est justement un vrai roussou des personnes qui s'expriment publiquement sur le sujet.
Dis-moi.
Olivier Tesquet de Télérama, enfin il y a du monde quoi. Rena Stamboliska, tu restes avec nous, on fait une coupure
Je sais
musicale.
pas.
DJ Vadim featuring Motion Man, The Terrorist.
connections, connections. Warm it up, warm it up. Cause y'all need to know one thing about me. I am the terrorist, 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 terrorist. T-E-R-R-O-R-I-S, the terrorist, 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 terrorist.
I'm after everybody.
I am the terrorist, 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 terrorist. T-E-R-R-O-R-I-S, the terrorist, 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 terrorist. Pull out in the automatic, rat-a-tat-a, a cat it, a tatus, never rat it. It's smoke them, it's see it, the body's dead it. Streets, paramedics, push up up on the set, it's a homicide and I dead it. I bet it's a lyric, deeply embedded into its head, it's conniption, convulsion, conjured by motion. I said it, orphan, it's orphan, like Kenny Northern, I'm tossing out from the field. You see it's the international slicer, mobster slasher, Paul Lasser, section wrecking like Tekken, karate fight, rhyming, repping, move out with special protection. My special move, my spinning glass, I rotation the words into a boomerang, retrieving the thing. Deadly incision, blood sucking vampire bat thing. Show up Bay Area werewolf in London, around the UK. Well, the wolf, how will eat shit and don't be away. My mango style deformed the artist, leaving his Lexus in his Lexus with an ugly bra, smelling like Nexus. Using Humexus, smoking Marlboros. AIDS infectious, weighing less than your gold necklace. She'll share the needle, I know. I'm not addicting and sickening. That's why I keep on inflecting and return. Different human being, each ripping. Terrorist, 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 terrorist. T-E-R-R-O-I-S, the terrorist, 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 terrorist.
I'm after everybody.
I am the terrorist, 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 terrorist. T-E-R-R-O-I-S, the terrorist, 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 terrorist.
Rappers, pull up your pants and rope.
The terrorist.
Kinda like an acrobatic fall. Move funky through the air, go attack the human, watch the crowd split apart. Crack back, bust line, side shot. You ain't seeing, but you feeling. Impact object like a rock. My words rolled up in sound. Torso like Randy Johnson, heat off the mound. I'm throwing down like Westbrook to his teammate when he got him hand down on the ground. Running around, stretching the field. Deep on your corner, safety always vice protection. Your shield gets blown to smithereens. Angel dust, shoot up for the elephant. I scoot quick like souped up Hondas that my partners ride from the Philippines. What I mean? The difference between me and these rappers, I kick it like nobody else's. I switch them between, leaving them puzzled. I dazzle and dazzle, moving my presence amazing.
Terrorist, terrorist, terrorist. T-E-R-R-O-I-S, the terrorist, 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 terrorist.
Walk that back street curve.
I am the terrorist, 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 terrorist. T-E-R-R-O-I-S, the terrorist, 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 terrorist.
You start the next record. Take me to a commercial.
Alright, you got it.
Vous écoutez CBU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes avec Rena Stamboliska, qui est auteur du livre La face cachée d'Internet, édité chez Larousse, pour parler donc de ce que c'est que le Darknet. Et justement, je me suis rendu compte que ça fait plus de 20 minutes que l'on parle et j'ai oublié de te poser la question. Qu'est-ce que le Darknet ?
Alors, une définition négative, et ce n'est pas l'ensemble de toutes les pages sur fond noir. Donc, une définition, on va dire, plus positive, hein, c'est vraiment une question super pénible à laquelle je ne sais jamais répondre, et sur laquelle j'ai pourtant écrit je ne sais pas combien de pages. Le Darknet, il y a différentes définitions. Il y en a une qui est très technique et qui est donnée par Bort à la toute fin de sa préface, qui est, je cite, le plus amusant dans les abus du terme darknet est qu'il existait un darknet longtemps avant que les médias s'en emparent pour désigner quelque chose de sale et de dangereux. En fait, un darknet est un réseau qui n'aimait rien, qui ne fait que voir. Tout comme n'émet pas de lumière, mais collecte celle émise par les étoiles. Ce terme est donc souvent cité dans la littérature scientifique. Un intense trafic circule en permanence vers les darknets, logiciels à la recherche de victimes à pirater, erreurs de configuration, réponses à des messages dont l'adresse IP source était usurpée, abus de l'adresse 1.2.3.4, et entre parenthèses, le réseau 1.2.3.0/24 est le darknet qui reçoit le plus de trafic lors de tests, etc. Donc ça, c'est une définition, si tu veux, super technique. Donné par Bort dans la préface. Voilà, je fais preuve de ma configure. ça, c'est donc une définition technique donnée par Bort. Une autre définition, celle à laquelle on fait plus souvent référence dans plein d'articles sensationnalistes, c'est un ensemble de sites web qui sont déployés en tant que service caché. Et donc, on appelle ça le Onion Land, hein, parce que ces sites web ont une extension, on va appeler ça une extension, même si les puristes vont me reprendre là-dessus, mais on va pas s'étaler là-dessus. Donc, tout un ensemble de sites qui ont pour extension un point Onion. D'accord. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a différents darknets, hein, parce que tu peux avoir les réseaux amis à amis, qui sont des réseaux de partage, hein, qui font partie en fait des réseaux pair à pair, qui sont aussi des darknets. Mais on n'en parle pas parce que c'est pas sexy, quoi. Ça fait pas les gros titres. Et Freenet ou I2P sont tout aussi populés, peuplés et tout aussi intéressants et actifs et dynamiques que Onionland. Mais le truc qui fait les gros titres, en fait, c'est on va surtout parler de l'ensemble des services cachés donc de Onionland, parce que il y a oh là là des marchés de drogue et il y a des de porno nazi, cannibales, tueurs à gages, tu vois, et toutes sortes de gens comme ça. Pour certains, c'est pas faux. Mais voilà. Donc, c'est une définition, si tu veux, qui est super bancale, mais juste parce qu'il n'y a pas une définition unitaire à un truc qui est super divers, en fait, qui est juste un ensemble de tout plein de technos et de tout plein d'objectifs aussi d'existence de ces technos-là, etc. Et donc d'activités qui se passent dessus. Du coup, voilà, c'est compliqué à faire une définition. Bon, j'en ai une, si tu veux, qui est sur quelques pages dans le bouquin. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent à lire. Mais voilà, ça, c'est en quelques mots.
On va essayer d'éviter de résumer les 330 et quelques pages où, justement, tu essaies de faire un tour exhaustif. Mais en soi, est-ce qu'on peut dire que quand on écrit à un ami par un email ou qu'on se connecte à l'intranet de son entreprise, est-ce qu'en soit, c'est un darknet? Toi, non, tu fais la différence.
Oui, ça, en fait, ce que tu viens de citer, c'est ce que la page Wikipédia en français définit comme le deep web, ou le web profond. Et en fait, si tu veux, je fais partie des gens qui estiment que ces distinctions-là n'ont pas lieu d'être. Parce que, en fait, chercher à monter cette définition en épingle, c'est en fait, notamment sur la partie deep web, c'est en fait reconnaître qu'on ne sait pas comment fonctionne un moteur de recherche. Tu vois, comment en fait, ce qu'on va te dire, oh là là, c'est des trucs qui ne sont pas indexés par Google. Mais tout un tas de raisons qui font qu'un moteur de recherche va ou pas indexer certains contenus. Il y a tout un tas de phénomènes, si tu veux. Il faut bien Il y a ça, deux choses. Il y a tout un tas de technos qui existent, qui ont une définition technique, tu vois, mais qui ont en fait des prétendus ou attribués usages qui font qu'on va leur coller une étiquette qui n'a en fait strictement rien à voir avec leur réalité technique. Tu vois, c'est comme me dire, pour aller sur le dark web, il faut des logiciels spéciaux. Ah bon, et bah, tu fais comment alors pour regarder tes mails ou pour aller naviguer sur le web? Il faut pas des logiciels spéciaux pour ça. Si, ça s'appelle un navigateur web, par exemple, tu vois. C'est un logiciel particulier, parce que le web, c'est juste une application d'Internet. Donc, c'est des trucs, si tu veux, comme ça, à l'emporte-pièce, qui me font, en fait, si tu veux, arguer en faveur de l'abandon de tout ce genre de terminologie complètement superficielle et incorrecte, qui, en fait, ne reflète rien. Un intranet, c'est un intranet, c'est pas le deep web. Une base de données qui n'est pas indexée par Google, elle n'est pas indexée par Google parce que c'est comme ça que Google fonctionne. C'est comme ça que marche un moteur de recherche. Il n'y a pas besoin de savoir exactement tout ce que contient une page ou une base de données ou machin à tout moment. Il a besoin de savoir où aller chercher si on lui demande. Donc c'est très différent comme tu vois. Techniquement, en fait, ce genre de choses a une réalité. Mais voilà, donc Deep Web, si tu veux, moi c'est j'ai un biais en préparation sur ça parce que je me suis rendu compte que qu'il y a énormément d'incompréhension dessus et je me suis souvenu, si tu veux, du choix éditorial que j'ai dû faire quand en fait j'ai commencé à écrire ce chapitre-là et où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe 20 pages à expliquer comment ça marche un moteur de recherche, pourquoi c'est inutile de parler de deep web, de machin, de trucs de bidule? Ou est-ce que je me contente de faire un truc super liminaire, un genre, je crois qu'il y a un mini paragraphe sur ça, qui reprend la définition qu'on connaît des médias qui n'a aucune réalité technique? Mais je passe outre parce qu'en fait, mon focus dans le livre, il n'est pas d'expliquer comment marche un moteur de recherche. Il est d'expliquer tout un tas d'autres choses et de dresser aussi un profil, on va dire, plus sociologique et politique de cette techno et de ces technos que d'expliquer comment exactement fonctionne un moteur de recherche. D'autant plus que bon, le papier, c'est rapidement obsolète. Donc, ce que je vais expliquer maintenant, ça, dans un an ou deux, ça va être obsolète. Donc, voilà, même plus vite. Et du coup, si tu veux, j'ai fait le choix de faire, OK, on va écarter cette question-là. On la traitera différemment, autrement, numérique, c'est-à-dire sur un blog ou machin. On va juste laisser passer le truc de Deep Web. On va dire que c'est les machins qui ne sont pas indexés par un moteur de recherche. Comme votre compte en banque, parce que truc bidule, et ou l'intranet. Et on va passer aux choses plus intéressantes et qui sont en fait qui rentrent dans ce que je vous racontais.
Ce qui est extrêmement étonnant, c'est que donc dans les sites qui sont sur accessibles via Tor, via le Onion Web et tout ça, donc on a des sites de vente de choses qui sont plus ou moins légales, notamment des médicaments. Parce que tout simplement, on n'a pas forcément, tout le monde n'a pas forcément accès à des prescriptions. Il y a de l'achat et de la vente de drogue. Mais d'une manière très étonnante, c'est qu'il y a une réelle éthique que l'on retrouve sur ces sites-là. Ils mettent des limites. Est-ce qu'il y a des limites qui sont acceptables pour l'humain ou c'est pour éviter de trop attirer l'attention, d'après toi?
Alors, éthique, je ne sais pas. Après, enfin, faut voir qu'il y a eu différents moments de développement de ce commerce-là, au sens où il y avait la première version de Silk Road avait une véritable revendication anarchiste. Anarchiste au sens théorie anarchiste. Ah, je parle pas discussion politicarde de comptoir. Voilà. Et là, si tu veux, il y avait et il y a des choses, si tu veux, qui se rattachent à des politiques publiques et des événements qu'on connaît très mal en France, qui en fait font énormément de dégâts aux États-Unis, qui est la War on Drugs, la guerre contre la drogue. Parce que ça, il y a tout un, ouais, tout un volet, si tu veux, de politique publique assez coercitive d'ailleurs pour certaines aux États-Unis, qui en fait vise à lutter contre les trafics de drogue, etc. Mais qui en fait sont complètement abusives à tout plein de niveaux et qui font en fait très peu de résultats probants. Et donc, si tu veux, quand Silk Road a été créé, il y avait différentes revendications, mais il y avait une vraie revendication très politique. Et il y a des études, si tu veux, qui ont été faites, qui montrent, par exemple, que la vente de drogue en ligne, hein, que ce soit dark web ou pas, ça diminue la violence dans les rues. Ah, pourquoi? Parce que tu ne vas pas aller te faire casser la gueule par ton dealer du coin, par exemple. Où tu vas avoir moins de guerres de gangs, etc. Au dehors, en fait, dans la rue, si les gens en fait sont amenés à moins se croiser. Enfin, c'est tout bête. Hein. Mais bon, voilà. Donc, si tu veux, Silk Road était, on va dire, la première grande installation, si tu veux, de quelque chose qui implique énormément d'activités illicites, parce que la vente de drogue, pas spécialement légale, mais avec une vraie revendication derrière et avec des arguments, si tu veux, qui, en fait, c'était pas si farfelu que ça. Et après, tu as eu l'autre génération, en fait, qui... Là, on va voir, on aura la troisième génération des marchés. Donc, tu as eu entre deux, la deuxième génération de marchés, enfin, de places de marché. Après, il faut voir que toutes ces places de marché, ou toutes ces places de marché où tu peux acheter de la drogue, parfois des armes, etc., par exemple, vont prohiber explicitement la pédoporno. Toute vente, échange, machin, de matériaux pédopornographiques. On peut dire que c'est une éthique, ça c'est si on est très bienveillant. Après, c'est juste un truc super, si tu veux, pragmatique. Hein. Je veux dire, si je te chope à opérer une place de marché et qu'en plus tu as autorisé, donc sous ton contrôle, c'est fait de la vente, de la mise en vente et de l'achat de matériel pédopornographique, tu trinques tout de suite beaucoup plus. Donc c'est très très pragmatique comme truc. Alors, de là, si tu veux, à dire que c'est super et que c'est aussi mu par l'éthique, je prendrai pas les paris, c'est de la pure spéculation. Mais voilà, il y a cette barrière là. Qui est clairement partout.
Reina, on oui. marque une pause et on va entamer oui. la troisième partie.
Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor scocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Mi
Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no.
Marina par Rocco Granata, à la demande express du service prévision de CPU.
CPU, carré et petit utile.
Vous écoutez CPU, le programme carré petit utile, et nous sommes avec Reina Stamboliska, auteure de La face cachée d'Internet, disponible chez Larousse. Peut-on parler de paranoïa chez les décideurs ?
Ah bon, ouais, j'imagine. Bon, après, je suis pas psychiatre. Hein. Paranoïa, c'est un terme, c'est connoté, mais il y a clairement une peur, si tu veux, qui est liée à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce qu'on comprend pas, et qui est malheureusement parfois savamment entretenue par des gens qui vendent des logiciels de sécurisation. Hein, et qui vous raconte des âneries à longueur de brochure pour vendre en fait oui. Pour vendre leurs solutions logicielles. Mais voilà, moi j'appelle ça
le commerce de la peur. Le commerce de la peur, ça a très bien marché pour les vendeurs de coffres-forts, et c'est John McAfee qui l'a initié un petit peu sur Internet. Là-dessus, je renverrai d'ailleurs sur un excellent documentaire qui est disponible sur Netflix sur le sujet. Là où on est allé à vraiment n'importe quoi, c'est le Marianas Web, où ça a été publié dans la revue officielle de la gendarmerie. Comment peut-on arriver à ce genre de bévue que même un spécialiste multicarte tel qu'on en trouve dans les chaînes d'info continue n'oserait même pas faire ?
Ah, écoute, je ne fais pas partie du comité éditorial de la revue de la gendarmerie, donc je ne me prononcerai pas sur leur choix. Mais oui, le Marianas Web, c'est un truc moi qui me fait hurler de rire à chaque fois, et je l'ai d'ailleurs cité parce qu'en plus en anglais c'est drôle, mais alors en français, en traduction française, mais c'est à hurler de rire. En gros, le Marianas Web, pour les gens qui n'ont pas eu le plaisir
on leur dit ou on leur laisse chercher. Je pense que c'est plus drôle de leur laisser chercher, sinon on va pas pouvoir tout aborder.
Tout de suite.
Bon, d'accord, ok. Donc en fait, il faut avoir un ordinateur quantique ou triphonosogol, si je me souviens bien.
Non, falsigol, polymère.
Ouais, c'est pour ça que j'en ai pas. C'est pour ça que j'en ai pas.
Voilà, c'est ça. En gros, c'est un canular qui est parti de 4chan. Donc, d'un forum qui existe depuis longtemps, où en fait beaucoup de trolls sont partis de là, et en fait qui montrait les différentes couches du web, avec un forum d'iceberg. Donc, tout le monde connaît l'iceberg, parce que ça, c'est l'imagerie que tout le monde récupère. Hein, et en fait, le Marianas Web, c'est vraiment le plus profond. Ça fait référence au fossé de Marianne, hein, qui est le point le plus profond de l'océan terrestre. Et en fait, bah, le Marianas Web, c'est le point le plus profond du web. Et c'est là où on trouve les secrets d'Atlantide, du Vatican, où on découvre même où est localisé Atlantide, tout ça. Donc, c'est un truc assez rigolo que j'invite tout le monde à voir, à lire, à découvrir si vous ne connaissez pas. Voilà, pour ça, c'est clairement à visée récréative. Après, je ne sais pas pourquoi des gens ont décidé que c'était de la vérité vraie. Mais le fait est qu'on revient en fait sur notre discussion depuis le début, que c'est vraiment la cristallisation de la peur, ce truc-là. Hein, c'est vraiment, on ne peut y accéder que dans des conditions très particulières. Toutes les légendes urbaines, hein, les secrets du Vatican, les secrets du docteur Mengele, hein, le fameux, pas fameux, mais le très célèbre
pseudo-médecin.
Oui, voilà, mais tous ces trucs-là, en fait. Donc, tout ce qui fait vraiment peur, tout ce qui terrifie, machin, est là. Donc, on est vraiment dans un truc, limite, c'est caricatural, en fait. Tellement on a mobilisé cette histoire de faire peur aux gens. Du coup, oui, on peut parler, vu que c'est, on comprend pas la moitié des trucs qui sont dits sur le sujet, et que l'autre moitié, c'est juste des affabulations de gens avec à l'imagination très fertile. En fait, c'est normal que tout le monde, plein de personnes ont peur, et parmi ces personnes-là, nos décideurs. Tu vois, mais après, en fait, c'est là où je diffère de pas mal de gens. C'est que moi, je continue, si tu veux, à vouloir éduquer tout le monde. Et en fait, à rappeler que quand on parle de chiffrement et comme quoi ça sert les terroristes, machin, tout ça, c'est non. C'est l'ennemi, le vrai ennemi, le nôtre, notre personne, mais aussi en tant que démocratie, etc. C'est le terrorisme, ça, je suis d'accord. Mais pas les maths. Et dire qu'un outil, pour le coup, en plus... Qui embarque que des maths, c'est fait pour servir les terroristes, c'est pas juste un contresens, c'est pire que ça. Donc en fait, il y a vraiment cette éducation, cette pédagogie-là à faire, et en fait à expliquer aux gens que c'est pas l'outil qui est problématique, ce sont certains usages qui en sont faits, mais c'est pas parce que ces usages-là sont faits par certaines personnes pour servir des buts complètement détestables, condamnables, etc., que faut tout en fait virer. C'est la simple éternelle eau du bain et le bébé qui va avec ou pas. Donc là, c'est la même chose.
Est-ce que
oui.
Comment on arrive à remettre, à redonner du sens au propos d'un homme politique que l'on croise, quand on voit que ce sont vraiment devenus des control freaks et qu'ils ont une parano incroyable d'Internet à cause de ces segments cachés?
Non, mais encore une fois, je pense pas qu'ils sont tous parano. Hein. S'ils étaient tous parano, ils feraient pas n'importe quoi avec leur communication.
Est-ce que la défiance des décideurs politiques diminuera avec le renouvellement générationnel, ou au contraire, est-ce que tu penses que les jeunes qui arrivent aux affaires en profiteront pour serrer d'autant plus la vis? Et est-ce que justement, c'est pas ce côté control freak de la classe politique qui amène de plus en plus de gens à aller vers le darknet?
Alors, je tiens à signaler que le plugin boule de cristal 2.0 de mon navigateur n'est toujours pas opérationnel. Donc, je ne sais pas. mais plus sérieusement, je ne sais pas. Enfin,
est-ce qu'au moins tu penses que c'est justement la surenchère de lois sécuritaires qui ont poussé les gens à aller vers le darknet, voire même les révélations Snowden?
La poule et l'œuf, enfin, tu vois. C'est il y a en fait les enjeux, si tu veux, pour moi, elles sont les enjeux sont, si tu veux, par rapport à la, comment dire, à la professionnalisation du métier, enfin, la professionnalisation croissante de celui qui écrit la loi et de celui qui l'interprète. Donc, d'une part, si tu veux, je suis très contente que des gens, qu'on ait ce renouvellement-là. Après, je ne sais absolument pas qui sont la plupart de ces gens. Hein. Dans ça, je suis différente de rien, enfin, rien de la plupart de nos concitoyens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un besoin énorme de simplifier. Sans prendre les gens pour des imbéciles, encore une fois, mais de simplifier en fait les textes au sens de les rendre plus digestes et plus intelligibles pour un plus grand nombre. Parce que même si on délègue sa gouvernance à son député ou sa députée, il n'en reste pas moins que c'est quand même, on doit quand même être en mesure en lisant Légifrance, de comprendre de quoi ça parle et comment ça nous impacte. Ou de, en fait, d'avoir quelqu'un à qui poser la question, à défaut de pouvoir comprendre soi-même. Aujourd'hui, tu connais combien de gens qui, comme Marc Reiss de Next Impact, ont une relation fusionnelle avec Légifrance, tu vois ? Moi, j'en connais très peu.
Oui, je dois reconnaître, oui, voilà. C'est un sacré spécialiste.
Voilà, mais si tu veux, tu en connais combien des comme ça ?
Pas des.
Or, ce sont, enfin, tu vois, la législation, c'est le système d'exploitation de l'État, quoi.
Donc en soi, une partie du problème vient aussi du fait que on ait créé des lois d'exception pour Internet.
Oui, après, bien sûr, mais parce que il y a un manque de compréhension. Et c'est, enfin, après, tu vois, si on remontait il y a quelques années en arrière, bon, à quelques décennies. On aurait tout aussi bien pu, et je pense qu'on en a créé, mais c'est juste qu'on a oublié, créer des lois d'exception sur les radiotransmissions. Tu vois. Donc, c'est, encore une fois, c'est une techno qui est très récente au final et qui implique des bouleversements très profonds. Et nous, on est tous très jeunes, finalement. On ne se souvient pas des années 50. Moi, j'étais même pas née. Enfin, tu vois, c'est du coup, ma mère était à peine née. Tu vois. Donc, on vit, j'imagine, à l'échelle, on va dire, de l'humanité, c'est pour ça que l'histoire est importante, on vit, j'imagine, des bouleversements qui ont eu lieu quand la télévision a apparu, tu vois. Et on a créé des lois d'exception pour ça. Après, la question, c'est de ne pas créer un loi d'exception telle que la loi sur l'état d'urgence ou sur la sécurité publique, qui, en fait, prend... Internet, ou le web, comme un canal à part qui a besoin en fait d'une juridiction à part. Parce qu'en fait, à force d'accumuler des lois, au final, on s'en sort plus. Alors que faut pas croire. Enfin, je veux dire, les pouvoirs publics, les forces de l'ordre, etc. Ils ont des moyens de pérer. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui s'appelle le code pénal, il y a un truc qui s'appelle le code de procédure pénale. Ces livres-là, beaucoup de gens ne les ont pas lus, et ces livres-là se vengent à leur façon, tu vois. Outre la blague de mauvais goût de ma part, j'entends que les personnes qui sont censées faire régner la loi ont des outils à leur disposition. Donc, quand on crée des lois, il faut aussi en fait, veiller à ce que ça ne leur complique pas la tâche. Sans pour autant leur donner des outils inopérants. Parce que, tu vois, il y a 2 mois, j'étais à une table ronde à l'ITU, donc Institut International des Télécommunications, je crois.
Oui, c'est une filiale de l'ONU, comme on dit.
Voilà, c'est une institution supranationale internationale, hein, donc, au même titre que l'ONU, etc. Et il y avait, si tu veux, à ma table ronde, un monsieur qui voulait, qui se disait avocat, enfin, je n'en doute pas qu'il est au barreau de je ne sais plus quel pays, et qui voulait absolument instaurer une juridiction dark web. Mais enfin, ça ne veut rien dire. Ça ne veut juste rien dire. Donc en fait, mais parce qu'il n'a pas compris de quoi on parle. Et il n'a pas compris que des outils opérationnels et des outils qui sont utilisés existent. Donc voilà, c'est surtout ça en fait. Et moi, si tu veux, ce qui me fait très peur, c'est qu'on soit très peu au final à avoir une appétence pour la partie juridique, à comprendre comment fonctionnent les choses techniquement, pas tout, hein, parce que c'est impossible, mais au moins certaines choses, et à avoir une parole publique, ou au moins avoir une parole active, c'est-à-dire aller parler à son député ou à sa députée ou à son représentant ou machin. On est très très peu comme ça, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus que la parano ou le contrôle fric ou je sais pas quoi. Tu
vois. Au final, le Darknet est-il dangereux parce qu'il existe, ou est-ce qu'il serait dangereux qu'il disparaisse ?
Les deux, mon capitaine. De toute façon, tu ne peux jamais vraiment arrêter une idée. Donc, sa réalisation, tu mettras fin à une de ses réalisations et elle apparaîtra sous une autre forme. Donc, c'est pas... Voilà, donc c'est les deux. y a des choses dangereuses qui se passent, mais comme partout. Hein. Je veux dire, il y a tout plein de gens qui peuvent t'escroquer ou te mentir ou te harceler ou machin sur le pas dark web. Et moi, il ne m'est jamais rien arrivé sur le dark web de négatif. Par contre, la quantité de gens qui me prennent la tête sur Twitter ou par mail, ça, si tu veux, voilà. Donc, perso, moi, je n'ai pas de mauvaise expérience. Mais ça m'inquiéterait, si tu veux, de décider qu'on ne pourrait plus créer des endroits où l'expression peut avoir un libre cours. C'est-à-dire que c'est au même titre que parler en privé avec quelqu'un. Tu vois, ça m'inquiéterait, en fait, que cette intimité ça disparaisse. Donc voilà, mais après, encore une fois, on peut pas arrêter une idée. Donc
Rena Stamboliska, merci beaucoup de nous avoir consacré beaucoup de ton temps pour cette entrevue. La face cachée d'Internet donc est sortie en avril dernier, si je me souviens bien, donc chez Larousse.
Ah non,
mais
en juin.
Oh punaise. Eh ben, il s'est vendu super bien et il y a vraiment d'excellentes raisons pour lesquelles il se vend très bien. C'est qu'il est d'une lisibilité incroyable, aussi bien pour le non-spécialiste que pour ceux qui s'y connaissent. Il est préfacé par Stéphane Borsmeyer et donc vraiment au plaisir, Reina, de se rencontrer. En tout cas, merci d'être au micro de CPU.
Merci à toi.
Une version longue de l'interview est disponible sur le site web de l'émission cpu.pm. C'était CPU, le programme carré, petit, utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch, Chief Obscuranting Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm ainsi que toutes les références, notamment celles du livre. Vous pouvez commenter et partager les parties non sonores, non musicales, pardon, sont en licence libre. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi selon mes calculs. Nous allons donc céder le micro à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Et j'espère que vous avez bien compris que l'exagération autour du Darknet, c'est juste des histoires de croque-mitaine.